Et ben c'est parti. Est-ce que tu peux nous présenter Swarm, le groupe?
Alors bien sûr, donc on est composé de 5 membres. Donc Rémi au chant, Antoine à la guitare lead, Anto à la batterie et Mika à la basse et moi-même à la guitare et second chant. Voilà. Donc le groupe est formé en 2014 par Antoine, Anto et Mika. Et après moi et Rémi, Rémi a rejoint la formation pendant l'enregistrement de Division Disharmonie, donc le premier album.
Oui.
Et moi j'ai rejoint un peu plus tard, donc en 2018, pendant la composition du deuxième. Voilà. Je sais pas, pour présenter un petit peu. Et puis notre style, on fait du thrash groove metal.
Ok. T'avais un peu suivi les aventures du groupe sur le premier album, enfin t'étais dans leur entourage?
Bien sûr, ouais, on était déjà assez proches. Donc moi j'avais fait déjà une audition à l'époque pour en tant que chanteur principal. Et puis moi j'avais déjà d'autres formations à côté, donc au final j'ai pas pu m'engager. Et puis je suis revenu en 2018 après pour la formation initiale.
D'accord. Justement avant Swarm, tu peux nous parler un peu de ton parcours artistique?
Alors moi j'avais un ancien projet, donc c'était Kermaskull, donc qui est toujours là d'actualité, donc ça rejoint un petit peu, là ils viennent d'enregistrer, donc il n'y a rien de sorti encore, ils viennent d'enregistrer leur premier album. Après j'avais intégré Smokey, dont on a sorti notre premier album aussi.
D'accord.
Donc c'était mes deux premiers groupes, deux premières formations. Après moi j'étais j'étais plus, on va dire, un petit mercenaire de la musique, donc on m'appelait pour faire des remplacements musicales dans d'autres groupes, tout ça, et c'est pour ça aussi que j'ai rencontré Swarm. On m'a demandé si je pouvais dépanner pour eux, donc pareil, j'avais remplacé dans Burnt Attack, d'autres groupes aussi également, et puis après maintenant dans Swarm actuellement.
D'accord, mais donc t'as commencé plutôt par la guitare ou par le chant?
Alors, ni l'un ni l'autre, j'ai commencé à l'âge de... je devais avoir 4-5 ans, j'étais tout jeune, j'avais commencé le violon.
Bonne base.
Et puis à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le... Enfin, ça a été vraiment une influence pour ma part, donc j'étais devant la télé, j'ai découvert la pub Kiss pour Coca-Cola. Et de là, en fait, ça m'a donné envie de... Je me suis dit, attends, c'est génial, mais Kiss McKee, font du rock et tout, moi, ça m'a donné envie de m'orienter plus vers la guitare, musique rock, bien que j'ai grandi avec plus de musique orientale, du rap, du Genesis, du Coding, des choses assez diverses en fait en soi. Et puis là, c'était une découverte où je me suis dit, j'aimerais bien me lancer dans la guitare. Ouais.
D'accord. Et effectivement, tu disais dans tes goûts, et donc ça s'est petit à petit métallisé, enfin t'as...
Alors, moi je suis quand même de nature très éclectique, donc je dirais pas que j'ai de style, après on peut en parler, j'adore faire du composé ou écouter, hein, que ce soit du rap, du métal, la musique de film, du celtique, du médiéval, je suis vraiment très éclectique, et puis même au niveau de mes compositions, ne serait-ce que dans le métal, voilà, je trouve ça toujours bon d'aller piocher dans des éléments qui ont rien à voir, tu vois, il y a toujours des bonnes choses à prendre, tu vois, des fois je compose du death metal, et puis ça peut m'arriver d'aller piocher dans du Depeche Mode, du Genesis, tu vois, Toto aussi, évidemment. Il y a toujours des trucs bons à prendre dans tout, quoi.
D'accord. Et donc, comme tu le disais, quand tu as intégré le groupe, ils commencent à travailler sur le deuxième, sur cet album, à la démo.
Alors, disons qu'on a tous des compos chacun de notre côté. C'est vrai, moi je suis arrivé, donc c'était pas exactement pendant la composition, mais il y avait quand même de la composition qui se faisait, tu vois. Forcément, même là, on vient de sortir notre deuxième album, et puis on a commencé directement à réécrire de notre côté, c'est ce qu'on fait habituellement, donc c'est vrai qu'on a toujours de la matière, pour pouvoir composer, écrire continuellement.
Et donc, dans la foulée, en fait, c'est quoi, est-ce que vous avez un processus, est-ce que vous êtes un peu stabilisé sur un processus spécifique pour composer ou pour...
Pour l'écriture, en fait, en grosse majorité, ça c'est vraiment chacun, on fait 80% de notre côté, on va faire des démos, on va composer des riffs, des patterns de batterie, peu importe, et après chacun de nos côtés à la maison, puis après on se rejoint au local, on répète, on fait des répètes, tout ça, donc après on essaie de modeler un peu toutes les idées de chacun pour en faire un résultat final, un morceau, et puis ainsi de suite. Ou autant des fois on est au local, on fait un jam, un buff, tu vois, et puis à un moment tu trouves un truc qui sonne plutôt bien, donc tu te dis bah pourquoi pas continuer à écrire dessus. Bah c'est vraiment au feeling, c'est l'émotion qui se dégage vraiment sur l'instant T.
D'accord.
On n'arrive pas à se dire, on ne sait pas, on va enregistrer un album, voilà, à telle date on est là et on va se bloquer sur un créneau, tu vois, pour enregistrer. Non, ça vient comme ça.
D'accord. Et donc, je comprends que, enfin, vous habitez tous les uns vers les autres et vous retrouvez sur une base hebdomadaire.
J'ai pas compris.
Donc, vous habitez tous les uns les autres et vous retrouvez chaque semaine en local, dans un local.
Voilà, toutes les semaines, on a un soir, on se réunit pour faire les répètes, pour composer, pour débriefer vraiment sur le groupe en soi, tout ça, quoi, sur l'avancement.
D'accord. Donc je comprends effectivement que Swarm c'est un groupe plutôt démocratique, mais en regardant un peu le booklet de l'album, on voit qu'il y a quand même, enfin, il y a une grande force créatrice derrière le groupe qui semble être le guitariste principal, qui peut-être lui, peut-être amorce un peu les choses avec une structure de titre ou une base mélodique ou.
Alors ça, en majeure partie, oui, ça va être Antoine, donc guitariste principal,
ouais.
Donc qui va faire vraiment les grosses structures. En soi, après, bon, il y a des morceaux, ça peut arriver. Moi, j'ai composé Five dans quasiment l'intégralité, par exemple.
Ouais.
Et c'est vrai qu'Antoine, par exemple, va composer vraiment les grosses structures. Ensuite, je vais arriver, je vais faire des arrangements. À la basse, pareil, il va trouver quelque chose pour incorporer dedans. Ensuite, c'est vraiment tout. Ça dépend, tu vois, chacun brise son truc, tu vois.
Mais ce que lui vous propose ou ce qui lui il amène, c'est quelque chose déjà un peu structuré ou c'est juste une idée de base pour.
Alors ça dépend, tu vois, c'est autant il va avoir juste des petits riffs, tu vois, qu'on va devoir compléter à la suite. Ou des fois il y a des morceaux quasiment finis, tu vois, et puis nous on arrange le truc, tu vois, c'est vraiment ça dépend, et puis chacun comme tu dis, même moi ça peut être moi, ça peut être le bassiste aussi qui a un morceau quasiment complet, tu vois. Et puis on va tous apporter nos petites pattes dessus, ouais.
Donc si on regarde la sortie de vos deux albums, a priori vous avez fonctionné sur un rythme de peut-être pouvoir sortir un disque tous les 2-3 ans, vu de l'intérieur, ouais. c'est un peu le rythme que tu ressens ou.
Alors nous c'est l'objectif qu'on avait, ouais, parce que c'est vrai qu'on aime quand même écrire et puis c'est devenu un moyen de promouvoir le groupe. Tu vois, maintenant t'es obligé de sortir les CD pour faire des concerts, tu vois, à l'époque c'était des concerts pour financer un album. Et c'est vrai que bah non, nous c'est dans l'avancée, et puis c'est vrai qu'on avait pour objectif de faire tous les 2-3 ans un album. Voilà, donc c'est pour ça que tu vois, je te dis, on vient de sortir le deuxième, et puis on a directement attaqué la composition chacun de notre côté. On a déjà des morceaux, voilà. Des morceaux aussi qu'on avait déjà composés à l'époque du premier, ou même avant, tu vois. Et puis c'est on a toujours des morceaux, des démos qu'on récupère. Voilà.
Et vous êtes posé la question de sortir plus vite d'abord un EP puis un album complet, ou vous êtes tout de suite attaqué l'album complet?
Alors à la base, Division and Disharmony voulait faire un EP, et puis au final, c'est vrai que ça a été un gros studio cet album, et puis pendant, ils étaient en studio, et puis ils ont encore composé des choses pendant l'enregistrement, et donc l'EP s'est transformé en album. Ouais. Voilà.
D'accord. Et sur celui-là, donc c'était quand même tout de suite l'idée de faire un long play tout de suite.
Sur Anathema?
Ouais.
Ah, tout à fait, ouais.
D'accord.
Non, on préfère faire des albums, ouais, tout à
fait. Si on regarde aussi là les crédits du disque, on voit que, alors t'étais pas là pour le premier album, mais que ça a été un peu, enfin vous êtes allé un peu dans les mêmes endroits, donc Studio Art Music et puis après une masterisation au Cole Keller. T'as pas participé au premier album, mais est-ce que tu t'as pu en discuter avec les autres, est-ce que d'une façon ou d'une autre vous avez modifié ou appris ou changé votre façon de travailler pour les sessions d'enregistrement?
Toujours sur le premier, hein.
Bah ouais, c'est-à-dire d'après ce que tu as compris sur l'enregistrement du premier, vous aviez modifié votre façon de travailler pour Anathema par rapport à Division and Disharmony?
Ah oui, l'évolution entre les deux, oui, bien sûr. Déjà, même moi quand je suis arrivé, bon, forcément, il y avait une analyse, on a fait toute une analyse sur le premier, et qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qu'il fallait apporter de plus, tu vois. Mmh. Et c'était ça l'objectif, quoi. Aller plus loin, c'est on est toujours en la quête de vouloir faire mieux. Et les compositions, la musique en soi a pris en maturité, et puis il y a, tu parlais, voilà, du studio Art Music. qui nous a apporté énormément. Donc c'est Camille qui nous a enregistré l'album. Et ne serait-ce que la prod de passer un autre cap, tu vois, tu passes vraiment une frontière professionnelle. Quand tu t'écoutes du Vision d'Harmonie, tu arrives sur un Anathema, tu vois, il y a un gros contraste au niveau sonore, quoi. Il est beaucoup plus professionnel.
Toi, c'était pas ton premier enregistrement d'ampleur? Toi, personnellement?
Oui.
C'était pas ta première expérience en studio?
Non, c'était pas la première.
D'accord. T'as été surpris de certaines choses, je sais pas, de la façon de travailler de certains de tes camarades par rapport à ce que t'as pu connaître sur des expériences précédentes?
Non, pas du tout. Non, c'était des méthodes. Ça m'a jamais dérangé plus que ça, même par rapport aux méthodes de mes anciens projets. Non, ça m'a pas marqué plus que ça.
En termes de temps, vous êtes organisé comment et ça a pris combien de temps pour mettre en boîte tout ça?
De la composition à l'enregistrement?
Ouais.
Alors ça a mis beaucoup de temps. Après voilà. Nous on a eu un objectif, c'était de faire un maximum de démos, de maquettes, histoire vraiment d'avoir du contenu. Et donc ça sur toute l'année de 2018, donc on s'est concentré que sur ça. Donc comme je te dis, on avait des morceaux finis, d'autres à moitié, donc voilà, ça a demandé du temps vraiment pour construire tout ça, sachant qu'on voulait faire quelque chose de plus riche, plus éclectique. Mm-hmm. Plus entendre sur l'album, hein, on a vraiment voulu trouver cette identité. Quoi. Donc ça a mis du temps vraiment à modeler tout ça, comme vous savez, tu passes d'un morceau qui est tantôt trash groove, à un autre qui est un peu plus stoner, un autre un peu plus aérien. Et il faut que tout ça reste en concordance, tu vois, que tu passes pas d'un Metallica à un CDC, tu vois, tu te dis, ouais. C'est pas le même groupe. Et tout ça, c'était un gros travail. Donc, un gros temps de composition. Ensuite, la préparation, il fallait, en plus de composer, il fallait les jouer, donc les répéter. Forcément, pour être prêt à l'enregistrement. Faire des démos. Et puis après, arriver en studio, on a mis à peu près entre la composition et l'album, ça a mis à peu près un an, tu vois.
D'accord.
Okay. Ça, en soi.
Et en studio, vous avez fait comme d'habitude, vous faites tout d'abord tout ce qui est rythme et puis après guitare et chant à la fin.
Alors ça commence vraiment, c'est dans un rang bien précis, donc c'est toujours batterie, basse, les guitares. Juste technique, après les chants et après tout ce qui est fioritures, solo, arrangement clavier, tout ça qui est fait à la fin.
Ah, donc les solos, d'ailleurs il est mentionné chaque fois le musicien qui passe les solos, c'est quasiment une des dernières étapes.
Les solos, ouais, ça fait partie des dernières étapes, ouais.
Les solos, ils sont très calibrés à la note près avant d'enregistrement, ou vous laissez une certaine liberté sur le moment, ou une fraîcheur?
Disons qu'il faut le truc c'est qu'il faut avoir quand même des solos qu'on puisse retranscrire en live. Et donc on peut pas se permettre de faire à la volée. Non, c'est vraiment travaillé à l'avance, bien fait. Alors pour Anathema, c'est vrai qu'il y a eu des albums qu'on a composé, trois, quatre solos qu'on a composé sur le moment, donc le jour même au studio. Et donc ça c'est des choses qui sont pas faciles aussi. On a pas manque de temps, donc du coup on a pu faire ça,
Je vois qu'en termes de solo, toi tu as pris la main au moins sur 3 ou 4 titres. Il y a Sputnik Explorer, il y a celui donc, tu sais, sur lequel tu avais beaucoup travaillé en compo 5.
En 5, ouais.
Et puis Life on Hold.
Life on Hold qui est mon solo, le point est solo, ouais, sur le film. Tout à fait, ouais. Alors ça c'est un solo que j'ai mis beaucoup de temps. Là c'est, par rapport à, justement, j'apporte une patte totalement différente, tu vois, que Antoine va apporter. Et tu sais, ce côté un peu, apporter un côté un peu plus chaleureux, et tease, tu sais, plus Van Halen, tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait, tu vois, et j'aime bien apporter ce petit contraste, tu vois, que des solos toujours bruts, des milliards de notes, tout ça, et j'aime bien casser un peu le mythe, tu vois, du rock metal, et puis voilà, quoi. Et après, il y a Sputnik, il y a Life on Hold, il y a sur la fin de Five, effectivement, ouais, on fait des questions-réponses. Ouais.
Et d'ailleurs, pour ce justement, pour comme tu disais, avoir un son un peu plus chaud, un peu plus peut-être 80s, tu joues sur quel type d'instrument?
Alors, bon, principalement, je joue sur les guitares de Mark Jackson.
D'accord.
Et sur amplificateur, après, ouais, je joue principalement sur Engel. Voilà.
Ok, d'accord.
Voilà.
Là, donc, il y a 11 titres, dont le dernier, moi, qui est instru, qui apparaît sur l'album. 11 titres apparaissent sur l'album, mais vous en aviez potentiellement bossé combien?
Alors, pour l'enregistrement de l'album, on en avait 16 au total.
D'accord.
On avait 16 morceaux, et puis pareil, tu vois, il fallait vraiment épurer. Il y a des morceaux qui sont plus longs aussi que d'autres. Tu vois, il fallait vraiment que tout colle. Donc, non, on avait 16 morceaux à la base, ouais.
Et donc, les 5 qui n'ont pas passé le cut? Ils sont mis de côté, puis vous reverrez si à un moment ou un autre vous voulez rebosser.
Ah, tout à fait, ça se garde toujours. Et puis, ça sera des morceaux qu'on pourra utiliser pour futur album. Voilà. Donc, non, c'est toujours des trucs qui se gardent. Il n'y a jamais rien à jeter.
Donc, le dernier titre instru, où donc là aussi t'as contribué à la composition. C'était une volonté de terminer sur un instru pour finir l'album, ou c'est un titre où vous n'avez pas senti de mettre des paroles dessus, ou...
Alors, comme sur le premier album, du coup, on a qui se clôture également sur une instrumentale, donc on a voulu faire pareil, parce que nous on aime bien ça, et puis ça nous... Disons que c'est un morceau qui... c'est un peu un patchwork de vraiment toutes les influences qu'on peut avoir, toutes les références techniques au niveau de nos instruments qu'on connaît. Mmh. Et puis c'est une sorte de défouloir, quoi. Tu vois, c'est vraiment histoire de clôturer le morceau. Et puis, voilà, il y a des groupes de trash des années 80, tu vois, qui faisaient également des morceaux instrumentaux. Mmh. Exodus, Metallica, tout ça, Overkill. Et c'est vrai que bon, on s'est dit pourquoi pas, ça fait une petite marque de fabrique pour clôturer un album. Et par contre, ouais, c'est vrai que sur Anathema, donc du coup, cet instrumental, puis en sacrifice, elle a une particularité de se terminer justement sur la fin du morceau. En fait, on revient sur la mélodie de l'intro, donc New Sun.
Oui, il y a une volonté de boucler la boucle.
Exactement, c'est ça.
Mais quand t'as commencé à travailler ce morceau avec Antoine, c'est vous saviez que ça allait être l'instru ou et vous l'avez bossé en tant qu'instru?
Non, parce qu'on s'est dit qu'il pouvait avoir du chant dessus. On savait pas du tout quel morceau. On était en plus c'est vraiment un morceau qu'on a cogité parce qu'on n'arrivait pas à finir. Et on avait vraiment du mal à le finir. On savait même pas si on allait le mettre. Et puis on a hésité à mettre du chant tout ça. Et puis au final, ça n'a pas été évident, et puis on a réussi à la fin. C'est vrai qu'on a joué, je sais plus si c'est au studio qui a eu l'idée, mais c'est vraiment il fallait clôturer justement par l'intro, et au moins on s'est dit putain, c'est cool, c'est normal, la boucle est bouclée, comme tu dis.
D'accord, au niveau du chant, donc il y a ton camarade, dont je sais plus le prénom, pardon.
Rémi.
Voilà, Rémi qui assure
le chant principal
avec là aussi toi en support. Le groupe, donc c'est lui qui rédige les paroles.
Tout à fait, ouais.
Est-ce que c'est vraiment un travail solitaire de sa partie-là où il faut qu'il puisse s'imprégner de ses propres paroles et les écrire, ou c'est une discussion collective?
Alors non, lui il écrit ses textes de son côté. Il trouve les thématiques parce qu'il aime beaucoup rechercher vraiment faire quelque chose de assez original et de travailler. Comme on en parle souvent, malheureusement dans le métal de nos jours, peu de personnes s'intéressent aux paroles. Mmh. Et c'est vrai qu'il essaie vraiment de faire un gros travail dessus, de donner une importance au texte. Et un jour, si quelqu'un s'y intéresse, ne serait-ce pour des chroniques tout ça, ça fera toujours bénéfique. Mais sinon, non, au niveau du travail, il écrit de son côté. Rémi écrit en français et fait traduire par Antoine, du coup, qui a un peu plus de connaissances au niveau du vocabulaire anglo.
D'accord.
Et du coup, voilà, ça se passe comme ça. Et après, au niveau des lignes mélodiques, enfin, lignes de chant, donc ça, on travaille à deux, donc Rémi et moi.
Ok. Ouais. Justement, il y a aucun moment où vous êtes posé la question de passer au moins un titre en français?
Et alors, on y a songé. On aimerait quand même dire le fait qu'on est quand même français. Et donc on y a songé. Bon, sûrement pour le troisième album, il y aura des pas tout l'album en intégralité, mais quelques morceaux en français.
D'accord.
D'où les quelques passages qu'on a incorporés, d'où le poème dans Sur Five et la fin de Billy's Done. Voilà. Et puis non, c'est vrai qu'à la base on a voulu les traduire en anglais, et puis ça s'est rendu compte que ça sonnait pas du tout. Et qu'il y ait beaucoup plus d'impact au final en français, ne serait-ce que pour le poème de Five, voilà, qui est beaucoup plus marquant ainsi. Donc, mais il y aura sûrement des morceaux en français, oui.
Tu parlais de la différence entre le premier et le deuxième album avec un vrai saut qualitatif au niveau du son, de la production, et c'est, je pense que effectivement c'est assez parlant, mais je trouve qu'on a le même saut qualitatif au niveau du tout l'artwork, le visuel. Donc il y a un nouveau logo qui est un peu plus chiadé entre guillemets, l'autre faisait un peu plus comment dirais-je, des groupes qui débutent. Voilà, le visuel est un peu plus aussi plus sombre mais plus très pro. Donc vous avez bossé avec Chromatorium. Vous aimez leur travail et donc vous êtes rapprochés ou comment ça, enfin, ou comment vous avez travaillé?
Nous on cherchait des graphiques. Déjà de notre côté, on a dessiné des logos, ne serait-ce que le logo, parce que l'artwork on n'a pas eu l'idée au début. Donc, c'est Rémi qui a eu l'idée en fait. On a fini par trouver Chromatorium, hein, qui a fait un travail sur des pochettes d'albums de collègues à nous, donc notamment Art Attack et puis Acme aussi également. Donc non, on a pu voir son travail sur le net, on s'est dit c'est fabuleux. Donc Rémi, voilà, donc le chanteur, donc il a pris un petit bout de papier, il a fait un petit schéma avec une croix, machin, ainsi de suite. Il a fait un roman de vraiment la thématique de l'album. Et en l'espace de 2 semaines, il nous a pondu la merveille qui est la jaquette actuelle.
Ouais. Les personnages qui apparaissent, hommes et femmes, c'est des modèles à lui, c'est des bidouilles à lui, ou il y a un truc, ou c'est des gens que vous connaissez, ou?
Ah non, c'est du dessin, ouais. C'est pas les gens qu'on...
Ah, je crois qu'il y avait c'était une photo avec des calques, tu vois, ou des...
Ah non, c'est vraiment un graphique qui a fait de A à Z.
Ah d'accord, ok.
Et voilà.
Mais même sur le dos de la pochette, là, on devine des visages, c'est toujours le dessin.
C'est du dessin, ouais. Il y a aucune photo. Et puis voilà, justement, je voulais venir sur la thématique de l'album qui est la thème, donc les contradictions. Et tu vois, selon comment tu perçois vraiment l'album, selon ton humeur quand tu vas l'écouter et tout, en fait, t'as ce côté clair et ce côté sombre. C'est vraiment la thématique du groupe qu'on a voulu faire. Voilà. Selon ton humeur, tu peux percevoir la musique de telle manière. Selon les ethniques, le temps, tout ça. Chacun peut voir ça à sa manière.
Et ce côté sombre et ce côté clair, c'était une idée dès l'origine?
Sans lui, après, oui.
D'accord.
Sans lui, bien après, oui.
D'accord, ok. Et donc, tu me disais, c'est à peu près 15 jours d'échange avec lui. Il propose quoi, un premier projet déjà bien avancé, et puis il essaie de voir si c'est dans ce sens-là ou pas du tout, ou...
Alors, il nous a envoyé un projet qui est très similaire à la pochette de base, sauf qu'il n'y avait juste pas les bâtiments en fond. C'était vraiment juste l'homme, la femme attachés, tu vois, sur un fond blanc.
Okay.
Et ça ressemblait un peu à la pochette de Massisteria, Matière Noire. Ça ressemblait un peu à ça, mais c'est vraiment noir et blanc. Et puis après, on a rajouté des détails, tout ça. Voilà, donc, d'où tu retrouves des éléments en fait sur la pochette qui traitent de sujets certains morceaux. Bon, ne serait-ce qu'il y a une personne qui nous a fait une remarque, justement, on a été étonné, mais qui était sûrement touché par l'écologie et a remarqué justement est-ce que le fait qu'il y ait les ruines derrière ces personnages, que les personnages sont ancrés dans la terre, est-ce que ça a un lien justement avec l'écologie? Et donc, donc il y avait plein de choses qui se sont retrouvées dedans. Si on regarde bien, l'homme et la femme sont enchaînés, mais les chaînes ne sont pas fermées. Donc, est-ce que la femme est soumise? Est-ce qu'elle veut être soumise? Est-ce que, tu vois, chacun fait sa propre image, en fait.
Ouais, ok. Non, tu vois, moi, après, sur la pochette, la version, entre guillemets, claire, les côtés échafaudage, Moi, ça m'a rappelé plutôt les images de Notre-Dame, tu vois, mais avec les échafaudages. Mais pourquoi hein, chacun voit ce qu'il veut, c'est ça qui va pas. Derrière la vue de la ville, il y a une ville particulière ou non?
Non.
Non, non.
Okay. Non, pas spécialement.
Il n'y a pas un message où c'est, je sais pas quoi, New York, Chicago, Pittsburgh, pour dire, voilà, ok, d'accord.
Non, pas du tout, non. Okay. Non, pas sur ça.
D'accord. Toujours dans le domaine du visuel, donc il y a eu des clips, donc il y avait quelques clips qui avaient été faits pour le premier album. Pour celui-ci, vous avez au moins sorti Frontiers, ce qui est visible sur YouTube, pardon. Alors, est-ce que c'est un exercice que vous appréciez en général, ou est-ce que c'est une, tu vois, c'est une nécessité entre guillemets pour se faire connaître?
Non, bah, le truc c'est que donc maintenant, bah, t'es obligé de promouvoir, tu sors un album, t'es forcément obligé de le promouvoir. Donc il faut forcément avoir du contenu, du visuel, et c'est important. C'est important pour l'image du groupe, et puis et après il y a ce côté aussi, ouais, on est des gros métalleux, mais on arrive quand même à faire des clips où il y a une petite dose d'humour, quand même.
Oui, en réutilisant les clips rap, les codes de rap et hip-hop.
Voilà, on s'est inspiré, tout ce qui était Beastie Boy, Run DMC, voilà. Ne serait-ce que dans le métal, enfin, toujours en musique, c'est vrai qu'on aime beaucoup cette époque assez old school et on a voulu parodier un peu ça. Donc, on n'avait pas les moyens d'avoir des grosses Lamborghini, des hôtels, des renichons, donc, on a fait comme on pouvait, puis ça a rendu ça, quoi. Et c'est ça contradictoire un peu. C'est que voilà, on fait de la musique, on tient qui est quand même un morceau assez énervé, et puis t'as ce clip qui est complètement décalé avec une touche d'humour, et puis c'est ça qui est magique, quoi. Ça t'arrive à créer cet univers, ouais.
Ça représente quoi, une journée de boulot ou plus?
Déjà il faut quand même
scénariser le truc, ouais. Mmh.
Ça se prend un petit temps à l'avance, donc voilà. Vraiment, on met un petit mois avant d'avoir quelque chose de vraiment précis, quoi. Surtout après, là, c'était un clip, on a tourné un peu partout, il fallait beaucoup d'éléments, et puis en 4 minutes, c'est difficile de mettre tout ça. Surtout que c'est pas un clip métal, on n'est pas dans un garage en train de jouer avec nos instruments. On a vraiment fait de la recherche. Après, bon, il y a des clips où on a mis beaucoup moins de temps.
En termes de tournage pur, c'est plus d'une journée?
Non, c'est une journée en général. Une journée.
Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux, toujours sur cet album?
C'est-à-dire,
t'as d'autres clips qui sont sur en projet?
On a un clip qui est déjà tourné, tout préparé, tout fait. Et donc là, on va faire une petite promo d'ici quelques jours. Donc, on va faire un teaser pour l'annoncer. Et le clip sort d'ici quelques semaines, fin de ce mois-ci. Voilà.
D'accord. Bon, bah, donc,
le morceau, si tu veux savoir, ça sera Deep Blind Silent.
D'accord. Ok. Voilà. Le 6. Ok. D'accord. Donc là aussi, donc à suivre sur Facebook et etc. Pour suivre la sortie du clip.
Voilà.
Juste deux trois dernières questions pour boucler. Donc vous êtes d'Antibes, c'est ça?
Ouais, on est
dans la région.
On est sur la côte d'Azur, donc Nice, Antibes, Cannes. Voilà,
métal, on connaît un peu la scène marseillaise.
Ouais.
J'ai dit Marseillaise Bouches-du-Rhône, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, de vous, de votre ressenti sur la scène métal locale?
Au niveau des groupes, tu veux dire?
Oui, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un public quand même local? Est-ce qu'il y a une dynamique?
C'est assez particulier, c'est vrai que sur la côte, le problème c'est qu'il y a une grosse communauté. Il y a énormément de consommateurs de rock, de métal. Le problème, c'est qu'au niveau des salles, c'est beaucoup plus limité qu'avant. C'est que sur la côte, entre Nice, Antibes et Cannes, on n'a que 3 salles. Il ne reste que 3 salles, donc c'est pas évident. Et sachant qu'en plus, maintenant, ça favorise plus les groupes de tributes. Voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant. Les gens se disent, il y a un tribut de Metallica, je connais Metallica. Et donc, forcément, ça a beaucoup mieux marché, c'est bête, mais les gens maintenant, on dirait qu'ils n'ont pas envie l'envie de découvrir des nouveaux groupes, des groupes locaux. Donc, c'est assez particulier, et puis, pourtant, Pourtant, on a quand même des groupes sur la côte, hein, on a quand même une grosse communauté, mais ça marche pas trop, malheureusement. C'est vraiment pas la région adéquate pour le métal. Hein.
Voilà. Et la relative proximité à l'Italie, ça aide ou ça change rien?
Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu.
Excuse-moi, la relative proximité de l'Italie, ça aide ou pas du tout?
Alors, nous, ça nous a pas forcément, mais par contre, on a pour objectif d'aller jouer en Italie. Voilà, je sais pas si ça peut répondre aussi, mais après, non, ça aide pas plus que ça, malheureusement.
D'accord. Dans les semaines ou les mois qui arrivent, qu'est-ce qui vous attend?
Alors, on a quelques dates de concert qui nous attendent. Donc, on va avoir le 1er février, on va jouer à... on va jouer au Rockanit à Lyon.
D'accord.
Le 6 mars, on joue chez nous, on joue à l'Alterax à Nice. En mai, on a prévu de faire une tournée, donc là, on est en train de travailler dessus, de faire un peu le programme. Donc, ça sera d'ici fin mai, je pense, on va faire une petite tournée. Et après, on a un festival dans le Var en juillet. Voilà.
Donc l'idée, c'est d'enchaîner les dates, quoi.
Ouais, exactement. Donc après, on enchaîne les dates, bien sûr. En même temps, on travaille aussi toujours sur la composition. Alors ça on va pas arrêter. On voit peut-être d'autres clips aussi on a déjà prévu de faire encore d'autres clips par la suite. Mais ça, on n'a pas encore travaillé dessus.
Ok.
Et puis voilà. Ouais. Donc après, dans l'avenir, ouais, notre objectif, c'est de vraiment faire des tours support. Ouais. Donc ne serait-ce que pour l'image du groupe, c'est que ça peut être que bénéfique. Partir avec des groupes avec certaines notoriétés, voilà. Donc ça va être notre objectif. Hein. Voilà.
Ok, écoute, merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci à toi.
Tous nos vœux pour donc les semaines qui viennent, et puis donc on va vous suivre sur les réseaux sociaux.
Super.
Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.
Merci à toi également. Au revoir.
Ciao.